14e épisode. Les écumeurs des champs d'or. Chapitre 1er. Un banknote de 1000 dollars. Deux voyageurs, à peu près vêtus à la façon des cow-boys et qui tous deux paraissaient épuisés de fatigue, descendaient lentement les pentes d'une vallée déserte de la Cordillère à une trentaine de milles de Mexico. Leurs vêtements étaient couverts de poussière, la sueur ruisselait de leur front et ils pliaient presque sous le poids de deux sacs de toile remplis d'ustensiles et d'outils. Tous deux répondaient au type de voyageurs que l'on rencontre dans cette partie du Mexique où abondent les prospecteurs, les mineurs sans travail, les aventuriers et les bandits de toute espèce. « Un peu de courage, Dad !» dit le plus âgé des deux hommes, qui paraissait avoir une quarantaine d'années et dont les façons, en dépit de sa barbe inculte et des loques dont il était vêtu, gardaient une certaine allure de gentleman. « Un peu de courage ! Dans une demi-heure, nous serons arrivés. Regarde, tout là-bas au fond de la vallée, on peut déjà distinguer les échafaudages, le derrick du puits à pétrole et les hangars de la mine allemande. « Il est grand temps que nous arrivions !» répondit le second voyageur, un maigre adolescent au nez crochu, au menton de galoche, qui ressemblait à une vieille dame très laide, mais dont la physionomie était néanmoins sympathique et malicieuse. D'un geste accablé, il remonta une des bretelles qui soutenait son sac et continua à suivre en silence le sentier rocailleux. « Je suis à bout de force, mon vieux Toby !» s'écria tout à coup l'adolescent en se débarrassant de son sac, qu'il jeta violemment à terre. « Il est midi !» Et nous marchons depuis le lever du soleil. Te reste-t-il encore quelques provisions? Un peu de lard fumé, une galette de maïs, et peut-être au fond de ma gourde une gorgée d'eau de vie de canne. Sans attendre la réponse de Dad, Toby s'était lui aussi débarrassé de son sac, dont il tira la galette de maïs qui était à la fois gluante et dure, le morceau de lard fumé, à peine plus gros qu'une boîte d'allumettes ordinaire. Il partagea fraternellement le tout avec son camarade. Les deux vagabonds s'étaient installés à l'ombre d'un rocher sous lequel un peu d'herbe avait poussé et reposaient leurs membres endoloris. Ils ne se relevèrent que quand il ne resta plus un seul atome des provisions, plus une seule goutte d'eau de vie au fond de la gourde. « Cela va mieux !» s'écria Dad avec un sourire qui ressemblait à une grimace. « Mais je crois bien que sans cette petite collation, j'aurais été tout à fait incapable d'atteindre les établissements de la Deutsche Natrona, dont nous ne sommes plus guère qu'à 1000 « Heureusement que là, nous allons nous dédommager de nos privations. »«
J'en ai la ferme conviction. »« Où qu'il se trouve, le docteur Christian aime à mener une existence très large. »« De plus, je vais lui apprendre bien des choses qu'il ne sera pas fâché de connaître. »«
Et tu vas me réconcilier avec lui ?»«
C'est promis. Dépêchons-nous maintenant. Il me tarde d'être arrivé. »«
Tu ne parlais pas cette façon il y a un instant. »«
Maintenant, cela va tout à fait bien. Puis nous touchons au but de notre voyage et c'est toujours une chose agréable. »
Ils continuèrent d'avancer malgré la chaleur, accablante à cette heure de la journée. Le soleil frappait la terre presque perpendiculairement. Les arbres et les rochers ne projetaient plus aucune ombre. Une vapeur violette ou bleue s'élevait des montagnes lointaines comme si, sous cette ardeur dévorante, la terre eût exhalé les dernières traces de l'humidité qu'elle pouvait renfermer.
« Sale pays !» grommela Toby.
« Il est certain que ce n'est pas aussi opulent que les belles cultures d'orangers qui environnent Los Angeles. »« Ce pays a pourtant certains avantages. Ici, la police n'est pas contrariante, comme dans le Nord. »«
Il n'y a pas de bonheur complet en ce bas-monde, » conclut Toby avec une résignation toute philosophique. Tout en parlant, ils étaient arrivés en face d'une solide palissade derrière laquelle s'élevaient les bâtiments de l'exploitation minière. Dad tira la corde d'une cloche. Des aboiements se firent entendre de l'intérieur, et un gros homme, qu'escortaient deux dogues d'Ulm, parut de l'autre côté de la barrière à claire-voie. Ce personnage, petit et chargé d'embonpoint, était complètement rasé, et il y avait dans l'expression de sa physionomie une certaine bonhomie pédantesque qu'accentuait encore un menton à triple étage et de vastes lunettes à branches d'or. Vêtu de toile crue, il était coiffé d'un chapeau pointu de forme tyrolienne, orné d'une plume, et qui semblait beaucoup trop petit pour le vaste crâne sur lequel il était posé comme une toiture sur une chaumière.
« Que voulez-vous » demanda-t-il d'un ton autoritaire
à ces deux minables visiteurs en employant la langue espagnole, mais avec un fort accent allemand.
« Je voudrais parler au seigneur ingénieur, » fit Ted en se découvrant respectueusement.
« C'est moi l'ingénieur, Ludwig von Hagenbach, docteur de l'université d'Iéna, conseiller privé, pour le moment directeur de la Deutsche Natrone. »
Le directeur avait énuméré ses titres avec une complaisance et une solennité dont Dad se garda bien de sourire.
« C'est au Herr Dr. Christian que je désire parler. »
Ces simples paroles amenèrent dans la physionomie de l'Allemand un changement aussi subit qu'extraordinaire. Sa face rose devint écarlate. Ses mains furent agitées d'un tremblement.
« Vous êtes des amis du docteur Christian ? » demanda-t-il en se contenant à peine.
« De ses amis intimes, » répliqua Dad en se rengorgeant. D'écarlate, le docteur était devenu violet, et à la grande surprise de Dad, il s'écria en poussant de véritables hurlements auxquels les docs firent chorus.
« Voulez-vous fiche le camp, tas de pantis ? Et plus vite que ça, ou je vous fais manger par mes chiens ! Ah, vous êtes les complices de cet infâme gredin qui a disparu il y a 8 jours en emportant 3 milliards de marques, qui est en relation avec tous les coquins du pays et qui nous a fendu des mines qui n'existaient pas. »
Le gros homme était dans un état de fureur qui touchait à l'apoplexie. Mais ni Dad ni Toby ne restèrent là pour voir si, oui ou non, ils seraient foudroyés par une congestion. Ils détalèrent de toute la vitesse de leurs jambes en adressant au Herr Doctor toutes les injures de leur vocabulaire en anglais, en français, en espagnol et surtout dans cet argot des malfaiteurs qu'on appelle le slang. Lorsqu'ils furent arrivés à une certaine distance des bâtiments de la Deutsche Natrona, Dad fit halte brusquement. Il était exaspéré.
« Tu te figures peut-être, » dit-il à son compagnon, « que la chose va se passer comme cela, que nous allons continuer à traîner la savate sur les grandes routes, si encore elles étaient bien entretenues. Quand ce ne sont pas des fondrières, ce sont d'anciens lits de torrents dont les cailloux aigus vous déchirent les pieds.
Tu as une idée ?»«
Bien sûr. Et mon idée, c'est tout d'abord de tirer vengeance de ce gros Allemand qui nous a jetés à la porte avec tant d'arrogance. Je comprends que le docteur Christian lui ait volé sa caisse. Il ne pouvait pas moins faire. En le faisant, il a joué certainement un rôle providentiel. Sa conduite nous indique celle que nous avons à suivre. »
Je pense que tu n'as pas l'idée d'attaquer le Herr Professor dans son camp retranché où il possède toutes sortes de moyens de défense, des armes de précision, des chiens féroces.
Il ne s'agit pas de cela. Nous allons tout simplement attendre qu'il sorte. Il serait bien extraordinaire qu'il n'ait pas sur lui une somme suffisante pour nous permettre de regagner Mexico, où nous tâcherons de retrouver la piste du docteur Christian. Il faut absolument que nous sachions ce qu'il est devenu. »
Dad avait une véritable autorité sur Toby. Celui-ci accepta donc de se ranger à son idée, et tous deux, en attendant que la grosse chaleur fût un peu tombée, s'installèrent à l'ombre d'un rocher pour faire la sieste. Ils savaient qu'à cette heure du jour, et par cette chaleur, aucun Européen ne peut sortir, sous peine de s'exposer à une insolation, et l'endroit où ils s'étaient installés était situé en bordure de l'unique sentier qui aboutissait à la factorerie. Les deux vagabonds étaient accablés de fatigue, aussi leur sieste se prolongea-t-elle beaucoup plus longtemps qu'il ne se l'était proposé. Le soleil déclinait derrière les pics déchiquetés de la cordillère lorsqu'ils se réveillèrent enfin. Ils étaient parfaitement reposés, mais ils mouraient de faim.
« Où allons-nous ? » demanda Toby, dont le sommeil avait embrouillé les idées. « Tu sais bien, » répliqua Dad, « que nous attendons Ludwig von Hagenbach. »
Singulière idée que tu as eue là, » grommela Toby, tourmenté par une faim dévorante.
« Et si ce gros Allemand ne sort de sa forteresse que d'ici 8 jours, nous faudra-t-il mourir d'inanition en attendant son bon plaisir ?»
Dad, qui de même que son compagnon était torturé par de cruels tiraillements d'estomac, était de fort méchante humeur.
« Me prends-tu pour un imbécile ?» riposta-t-il avec aigreur. « Nous occupons le seul sentier par lequel puissent passer les gens de la factorerie. De toute façon, il faudra bien qu'ils sortent. »
« Et s'ils ne sortent pas ?»«
Tais-toi donc ! Est-ce que tu ne t'es pas toujours bien trouvé de mes conseils ?»«
Ça dépend, » grommela Toby avec un haussement d'épaules. La discussion menaçait de s'envenimer quand des aboiements retentirent dans la direction des hangars. Dad et Toby se glissèrent précipitamment derrière un rocher. La barrière venait de s'ouvrir et le professeur Ludwig von Hagenbach en sortit pour aller respirer le frais dans la montagne après sa sieste. Ce savant personnage
voulait sans doute profiter des dernières heures du jour pour se livrer à sa passion pour les sciences naturelles, car il était muni de tout un attirail compliqué. Il portait en bandoulière une longue boîte verte, destinée à recueillir les plantes, un filet à papillons reposait sur son épaule, sa ceinture était garnie d'un lourd manteau de géologue qui faisait pendant un revolver presque aussi gros qu'une mitrailleuse. Enfin, sa canne, qui renfermait intérieurement un parasol, se terminait par une petite bêche pointue, arrondie en forme de cœur, qui, suivant le cas, pouvait être employée comme outil d'herborisation ou comme arme défensive. Nous allions oublier une lunette d'approche de gros calibre et une musette remplie de provisions qui se faisait équilibre de chaque côté de sa bedaine. Le professeur s'avançait gravement, s'arrêtant à chaque instant pour regarder le paysage ou se penchant pour étudier le sol, en homme pour qui une promenade est une occupation sérieuse et bien rétribuée. Il mit presque un quart d'heure à franchir la courte distance qu'il y avait entre l'établissement, dont il était directeur, et l'endroit où ses deux ennemis s'étaient mis en embuscade. Il venait d'y parvenir lorsqu'il aperçut à terre une petite plante grasse à fleurs jaunes qui sans doute manquait à ses collections, car il se baissa rapidement pour l'accueillir en poussant un cri de joie. Il n'eut pas le temps de se relever. Petit Dad, agile comme un singe, lui avait sauté sur les épaules pendant que Toby le gratifiait d'un croc en jambe qui le fit s'étaler tout de son long, le nez sur la plante qu'il s'apprêtait à cueillir. Embarrassé par l'attirail dont il était chargé, le pauvre docteur n'opposa qu'une faible résistance aux deux gredins. En un clin d'œil, il se vit dépouillé de son revolver mitrailleuse, de son sac à provisions et de tout ce qu'il portait. Pour l'empêcher d'appeler au secours, Dad lui avait enfoncé dans la bouche un vieux mouchoir de poche horriblement sale. Von Hagenbach était à demi asphyxié, et de plus, il s'était cruellement meurtri dans sa chute. Les deux bandits lui enlevèrent son gilet et son veston dans les poches duquel ils trouvèrent 4 piastres mexicaines, de la menue monnaie et un portefeuille que Dad fit disparaître avec l'agilité d'un prestidigitateur de profession en se réservant de l'examiner plus tard tout à loisir. Le docteur fut aussi dépouillé de sa chemise, de ses lunettes à branches d'or qui allèrent rejoindre le filet à papillons et le marteau géologique.
« J'aime assez l'histoire naturelle !»
fit Dad qui s'était passé en sautoir la boîte verte d'herborisation. Puis, après avoir fait une grimace à sa victime, qui se débassait désespérément tel un veau marin échoué sur un banc de sable,
« Est-ce qu'on lui enlève sa culotte ?» dit gravement Toby.
Le docteur, malgré le bâillon qu'il étouffait, poussa un grognement de désespoir. Il tourna vers Toby des regards si suppliants que celui-ci, qui, au fond, n'avait pas une mauvaise nature, se laissa presque attendrir. « Bah, fit-il, laisse-lui sa culotte. Comme dit un proverbe français, il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Puis, ce coutil n'a pas l'air de très bonne qualité. Ce doit être un ersatz, une espèce de culotte en papier, si tu préfères. » Le malheureux docteur ne bougeait plus, depuis qu'il avait entendu dire qu'il ne faut pas tuer tout ce qui est gras. Lui qui était d'une corpulence énorme, il se demandait s'il n'allait pas être immolé immédiatement.
« Et sans lui sa culotte ?» fit Dad avec beaucoup de magnanimité. « Elle serait beaucoup trop grande pour moi, d'ailleurs. Puis ce n'est peut-être pas la peine de rester trop longtemps dans ces parages. Attache-moi solidement cet honnête savant. Nous allons filer. »
Toby s'empressa d'exécuter cet ordre. Il garrotta solidement le prisonnier et eut même la pensée délicate d'arranger le bâillon de façon à ne pas le faire trop souffrir. Petit Dad, qui ne se départait pas un instant de son caractère jovial, adressa à sa victime un profond salut avant de l'abandonner à son malheureux sort.
« Au revoir, Herr Doctor, » lui dit-il. « Bien des choses de ma part à l'université d'Iéna. Je vous autorise à écrire à votre consul à Mexico que vous avez été victime d'une agression de la part de von Toby et de von Petit Dad. »
« À part cela, » ajouta-t-il d'un ton menaçant,
« si jamais vous avez la mauvaise idée de porter plainte contre nous, je reviens pour vous couper les oreilles. »
« Et pour vous enlever votre culotte, » ajouta Toby, qui trouvait excellente cette mauvaise plaisanterie.
« Je vais lui laisser son filet à papillons, » déclara gravement Petit Dad. « Je suis trop bon. On m'a toujours dit que c'est cela qui me perdrait. »
Après s'être copieusement divertis aux dépens de leur victime, Toby et Petit Dad la laissèrent assez peu confortablement installée à l'ombre du rocher.
« Maintenant, »
déclara Dad, qui pliait sous le poids du butin dérobé au docteur, « il faut, comme disent les gens de sport, faire de la vitesse.
Il ne serait pas intéressant du tout
que les péons de la factorerie nous tombent sur le dos avec leurs chiens.
« Tu es bon, toi, » grommela Toby. « Moi, j'ai une faim atroce. »«
Ma foi, tu as raison. On ne va pas bien loin quand on n'a rien dans le ventre. Nous allons donner un coup d'œil aux provisions du Herr Doktor. J'ai toujours entendu dire que les Allemands faisaient un dieu de leur ventre. Je souhaite qu'on ait dit vrai. »
Petit Dad ouvrit la musette et en retira avec une mine extasiée une grosse tranche de jambon, des tartines beurrées, une paire de saucisses, la moitié d'un petit pain rond et une importante bouteille de kirsch. Petit Dad était à la fois émerveillé et stupéfait.
« Parle-moi de ces gens-là » s'écria-t-il. « Ça, c'est épatant. S'il ne mange que cela pour son lunch, qu'est-ce que ça doit être à son dîner? J'en ai une indigestion rien d'y songer. »
« Tu penses, » fit gravement Toby, « que ce n'est pas en mangeant de la ficelle qu'il attrape une bedaine pareille. »
Avec une rapidité surprenante, le pain, le jambon et les saucisses disparurent. Il en fut de même d'une petite boîte de harengs de la Baltique que Dad avait découverte dans la poche du veston du docteur. Après ce festin, les deux bandits donnèrent une forte accolade à la bouteille de kirsch. Ils se sentaient maintenant tout à fait ragaillardis. Heureux de vivre, ils envisageaient l'avenir avec confiance. Et ils n'avaient pas assez de plaisanterie pour se moquer du docteur dont ils venaient d'absorber les provisions de bouche.
« Si on retournait chercher le fil à papillon et la culotte ?» proposait Toby.
« Vraiment, ça m'étonne de toi !» répliqua Dad sévèrement. « Tu n'es pas un gentleman !»« Je vais plutôt voir ce qu'il y a dans son portefeuille. »
Toby était devenu silencieux. Dad exhiba d'abord divers passeports ornés de cachets multicolores, un diplôme sur parchemin délivré par la fameuse université d'Iéna et quelques autres pièces d'identité. Enfin, il tira d'un compartiment secret un banque-note de $1,000 qu'il étala complaisamment aux yeux de Toby. Le bandit le regarda quelque temps avec attention, le froissa et le replia plusieurs fois, en examina les numéros, puis tout à coup, il se leva avec un geste de colère.
« Nous allons retourner sur nos pas, » dit-il avec emportement, « et que le diable m'emporte si je ne coupe pas les oreilles au docteur. »«
Hein ?» fit Dad abasourdi.
« Dame, il n'aurait que ce qu'il mérite. C'est un abominable filou. Il nous a refilé un banque-note faux. »«
Tu es sûr ?» murmura Dad accablé.
« Tu penses que je suis compétent dans la matière ? J'en ai fabriqué. Regarde d'un peu près. Tu verras que la tête de l'aigle n'est pas nette. Le papier est trop épais et les numéros ne concordent pas. »«
Décidément, » fit Dad avec le plus grand sérieux, « ce poche est un sale voleur. »«
Est-ce qu'on retourne lui couper les oreilles ?»«
Eh bien non, » répondit Dad après un instant de réflexion. « Nous allons gagner au plus vite la station qui n'est qu'à 1 mile d'ici. »«
Je ne te reconnais plus. Mais alors, et le banque-note ?»
« Je vais le passer. C'est ce que nous avons de mieux à faire. »«
Personne n'en voudra. »«
Tu crois ? » ?»«
Mais comment t'y prendras-tu ? » ?»«
Mon vieux, » fit Dad en clignant de l'œil, « ça me regarde. Je ne sais pas encore comment je ferai, mais je suis bien sûr d'une chose, c'est que je réussirai. Tout ce que je te demande, c'est de me laisser faire. »«
Je sais que tu es un malin, » murmura Toby un peu vexé. « Chacun ses qualités spéciales. »
Dad n'entendit pas la dernière moitié de cette phrase. Il avait pris un pas tellement accéléré qu'il avait déjà laissé Toby très en arrière. Celui-ci se hâta de le rejoindre et après une demi-heure d'une course folle, tous deux arrivèrent à la station de l'Estancillo où ils réussirent à monter dans le train sans autre aventure. Chapitre 2. Petit Dad devient psychologue. Le bar de l'Alliance, dans la petite ville de Palmarejo, était dirigé depuis plusieurs années par l'honorable Walker Clapton, un ancien ouvrier brasseur d'origine anglaise qui était en train de faire une grosse fortune avec les travailleurs des mines d'argent qui appréciaient tout particulièrement son whisky et son gin des meilleures marques anglaises et américaines. Monsieur Clapton était un gros homme athlétique, la face congestionnée et apoplectique. Il était énorme. Ses joues arrivaient presque à cacher son nez. Ses yeux très petits et assez vifs disparaissaient sous la graisse envahissante. Son front était très peu développé. En revanche, il avait 4 mentons, et ses lèvres lipues, d'une riche couleur vermeille, encadraient des dents d'une blancheur éclatante. Le ventre de M. Clapton avait pris une telle importance que son propriétaire, ainsi qu'il en convenait lui-même avec un bon rire, était dans l'impossibilité, quand il baissait les yeux, d'apercevoir ses pieds. pourtant très développées et chaussées de solides brodequins presque aussi vastes que des chaloupes. M. Clapton était fier de sa santé et aussi de son appétit. Après avoir déjeuné copieusement, il absorbait une douzaine de grogs tout en jouant au bridge avec ses clients. Vers 4 heures, il mangeait une demi-livre de jambon avec des tartines beurrées pour se faire bonne bouche, en attendant le repas du soir. Cette collation était suivie de quelques verres de porto et de vin d'ananas dont M. Clapton se montrait particulièrement friand. Nous n'essaierons pas de décrire le dîner de cet ogre qui engloutissait nonchalamment des gigots entiers, des montagnes de boîtes de conserve, des corbeilles de fruits et généralement toutes les choses mangeables qui tombaient sous sa main à cette heure de la journée. Une fois à la suite d'un pari, il avait dévoré un veau entier, accommodé à différentes sauces, et il n'avait pas eu d'indigestion. En cette occasion, il avait même eu la coquetterie de réclamer des desserts quand la dernière escalope avait disparu dans sa panse gargantuesque. Il n'est pas besoin de dire qu'un tel homme était extrêmement populaire. Il était adoré des mineurs. C'était à qui viendrait lui taper sur le ventre et lui offrir un grog. Les tapes et le grog, M. Clapton les acceptait avec une bienveillance dédaigneuse. D'ailleurs, il n'avait pas son pareil pour lancer à une grande distance sur le pavé les ivrognes et les mauvais payeurs. Ses biceps étaient justement redoutés. « Moi, déclarait-il, je ne comprends pas un barman qui est obligé d'avoir un Browning ou d'autres engins de ce genre. S'il est forcé d'avoir recours à de pareils outils, on peut être sûr que c'est un pauvre sire qui ne réussira jamais dans la partie. Voilà avec quoi il faut sortir le client. » Et il étalait fièrement ses poings énormes, aussi vastes, aussi dodus et aussi roses que des épaules de mouton. Très violent, très coléreux, le patron du bar de l'Alliance n'était pas un méchant homme. Il faisait facilement crédit à ceux qui savaient lui adresser à propos quelques compliments sur sa force musculaire. Mais s'il s'apercevait qu'on essayait de le rouler, il devenait terrible. Mieux eût alors fallu avoir affaire à un lion ou un taureau furieux. Le bar de l'Alliance était relativement luxueux. C'était le plus beau de la ville. En face du comptoir d'étain, si bien frotté qu'il étincelait comme de l'argent, s'alignaient de hauts tabourets d'acajou sur lesquels se hissaient les consommateurs de marque, les clients sérieux, les vieux habitués de l'établissement. À l'extrémité de ce comptoir se dressait une grande urne de cristal où nageaient des poissons rouges. C'était une pièce monumentale. Clapton, quand il est un peu gris, affirmait que son urne avait été volée dans un musée français et qu'autrefois elle servait à donner à boire au cheval du roi. De quel roi? Il eût été bien embarrassé de le dire. Quand il était à jeun, il affirmait, plus modestement, que le fameux bocal avait figuré à l'exposition de Chicago où il l'avait payé $50. Quoi qu'il en soit, l'urne était une des gloires du bar de l'Alliance. Un soir, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Mexique, Clapton avait fait frire les poissons rouges et rempli son urne de whisky soda, et tout le monde, pendant une heure, avait eu le droit de s'abreuver gratuitement. Cette magnificence l'avait d'ailleurs rendu fameux dans le voisinage et augmenté d'autant sa clientèle. Il était près de minuit. Madame Clapton, aussi maigre et aussi pâle que son mari était sanguin et ventripotent, aussi effacée et silencieuse qu'il était loquace et bruyant, était en train d'essuyer le fameux comptoir d'étain quand plusieurs mineurs en goguette entrèrent dans l'établissement. Le patron leur exprima sa sympathie en leur broyant les doigts comme aurait pu le faire avec ses pinces un homard de fort taille, si jamais les homards s'étaient avisés de donner des shake-hands à leurs camarades. Les mineurs, en revanche, tapèrent en cadence sur la bedaine de M. Clapton. C'était une plaisanterie permise. Le barman eût été désolé que personne ne constatât d'une façon palpable son magnifique embonpoint. Les mineurs prirent un ou deux gobelets de whisky assez sagement. Le patron paya une seconde tournée. On parla des affaires du pays. Pendant cette conversation, un drôle de petit jeune homme assez mal habillé entra tout doucement et s'assit dans un coin en commandant à la patronne un verre de gin, avec un petit sourire qui lui gagna du premier coup le cœur de l'excellente dame. « Vous avez l'air bien faible pour le travail des mines, » dit-elle avec un certain intérêt. « Je ne suis pas un simple mineur, » répondit l'adolescent avec un peu de fatuité. « Il ne faut pas juger les gens sur la mine. J'ai quelques milliers de dollars à la Banque de Mexico. »« Eh ?
ajouta-t-il en baissant la voix, si je viens ici, c'est pour acquérir des terrains argentifères dont on m'a dit merveille.
Mon pauvre monsieur,
répliqua Madame Clapton, dont la physionomie exprima une pitié sincère.
Vous ne pouvez pas vous imaginer combien on est volé au Mexique.
Moi, on ne me roule pas, fit le jeune homme, en se plaçant les deux mains sur les hanches d'un air de défi.
Vous m'avez l'air d'un brave gentleman, dit Madame Clapton après avoir regardé prudemment autour d'elle.
Voulez-vous que je vous donne un bon conseil? N'achetez rien dans ce maudit pays. Les mines qui produisent quelque chose sont depuis longtemps vendues à des milliardaires américains. Ce qui reste, en fait, de concessions, ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe.
Madame Clapton devenait presque maternelle.
Si vous m'en croyez, ajouta-t-elle en baissant la voix, reprenez le temps pour Mexico. Si vous saviez ce que j'en ai vu de ces pauvres jeunes gens qui arrivaient ici pour faire fortune et qui repartaient sans sou ni maille, avec les fièvres ou une jambe cassée.
Je vous parie bien qu'à moi cela n'arrivera pas, murmura l'adolescent avec une réelle conviction.
Je vous le souhaite, mais je ne l'espère pas beaucoup.
Voulez-vous que je vous dise? Il n'y a qu'un seul commerce qui réussit par ici.
Et lequel?
Celui de mon mari, dit Madame Clapton en baissant la voix.
Le jeune homme eut un geste de surprise et d'admiration.
Je crois vraiment, dit-il d'un ton convaincu, que vous êtes une brave, excellente dame, et je vous promets de suivre vos conseils. Donnez-moi un autre verre de gin and soda. Celui-ci était délicieux.
Pendant que Madame Clapton s'empressait de servir ce jeune client si raisonnable et si sympathique, un autre personnage entrait à grand fracas dans le bar. Il paraissait à moitié ivre. Ce fut avec une peine inouïe qu'il se percha sur un des hauts tabourets qui se trouvait en face du comptoir.
« Maintenant, ça va bien » beugla-t-il. « Patron, donnez-moi ce que vous avez de meilleur dans votre boîte. Une bouteille de vrai champagne, par exemple. »«
Mon garçon, » répondit prudemment M. Clapton, « une bouteille de champagne, ça vaut son prix. »«
Je m'en fiche, ça m'est égal. »«
Tu as de l'argent ?» demanda Clapton, auquel le costume plus que négligé du nouveau venu n'inspirait qu'une médiocre confiance.
« Bien sûr que j'en ai. Allons, dépêchez-vous de me servir. »
Puis, en y réfléchissant, ne prendrai pas de champagne. Mets-moi un whisky. Tout ce que vous êtes meilleur.
Le whisky fut apporté et vidé d'un trait par l'ivrogne, qui devenait d'instant en instant plus exigeante et plus tapageure. L'urne poisson rouge parut attirer vivement son attention. À la grande indignation de monsieur et de madame Clapton, il offrit de parier $5 qu'il atteindrait un des poissons rouges à 20 pas, et il tira de sa poche un Browning d'un énorme calibre, dans lequel nos lecteurs eussent reconnu la mitrailleuse de Herr Dr. von Hagenbach.
« Pas de blague, hein ?» s'écria Clapton alarmé. « Je te défends de tirer sur mes poissons. Rentre ton revolver ou je te tords le cou. » « Hé, si ça m'amuse, moi !»
repartit l'ivrogne avec un rire stupide. Avant que le barman eût pu s'y opposer, il avait envoyé une balle au centre même du fameux vase. Il y eut un fracas de verre cassé. Les poissons rouges se débattaient à terre, au milieu des débris de l'urne. Devant ce lamentable spectacle, Clapton fut frappé d'un tel saisissement qu'il demeura incapable pendant quelques secondes de prononcer une seule parole. Un silence gros de catastrophe planait dans l'enceinte du bar. L'ivrogne, sans doute dégrisé par la réalisation même de son exploit, regardait piteusement à terre. À la surprise, avait succédé chez Clapton une effroyable colère. Les yeux lui sortaient de la tête et son visage s'était violacé. Il saisit au collet l'auteur du désastre et le secoua brutalement.
« Tu ne sais pas, coquin » hurla-t-il, « que tu viens de casser un vase qui vaut plus de $50. Il n'y en avait pas un aussi beau dans le pays à 10 000 à la ronde. Tu vas commencer par me le payer. »
« Je n'ai pas l'argent, » fit l'homme d'un air navré.
« Ah, tu n'as pas d'argent !» répéta le tavernier d'un ton menaçant. « Va-nu-pied, escroc, bandit ! Je vais te rompre les os !»«
Faudrait mieux aller chercher la police, » conseilla un des mineurs. Le jeune consommateur qui buvait un verre de gin, seul à une table, s'était levé brusquement et s'était rapproché du groupe dont Clapton et son bizarre client occupaient le centre.
« Il n'y a pas besoin d'aller chercher la police, » fit-il. « À votre place, je commencerai par le fouiller. »
« Parbleu, le conseil est bon, » s'écria Clapton. « Je n'y avais pas pensé. »
tournant et retournant l'ivrogne entre ses grosses pattes, à peu près de la même façon qu'un chat retourne une souris, il explora les haillons du malheureux et il en tira triomphalement un portefeuille.
« Ah, l'escroc! Vous voyez bien qu'il voulait me voler. Il en a de l'argent !»
Et il brandit un banque-note de 1 000 $ qu'il venait d'extraire d'un des compartiments. Cette découverte avait un peu calmé la fureur du tavernier.
« Moi, je ne suis pas un malhonnête homme, déclara-t-il. Je vais prendre sur ce billet juste ce qui m'est dû et envoyer ce triste sire se faire pendre ailleurs. »
« Vous avez vraiment trop de bonté, »
dit le jeune homme qui avait donné le conseil de fouiller le délinquant.
« Je suis comme je suis. Je vous garantis que l'affaire va être vivement liquidée. Je compte 50 $ pour l'urne, 5 $ pour les poissons et le whisky.
Voilà par conséquent 945 $, ajouta-t-il, en fourrant la somme qu'il venait de prendre dans son tiroir caisse, dans le portefeuille d'où il avait retiré le banque-note.
« Maintenant, si j'ai un conseil à te donner, c'est de ne jamais remettre les pieds chez moi. »
Après cette recommandation, il conduisit son voleur jusqu'à la porte, qu'il ouvrit toute grande, et le poussa rudement dans la rue, non sans l'avoir gratifié en guise d'adieu, d'un vigoureux coup de pied dans la partie postérieure de son individu. Monsieur Clapton exultait. Chacun le félicita hautement de sa sagesse, de sa prudence et de la modération qu'il avait montrée en châtiant ce mauvais drôle qui avait la prétention de boire sans payer et qui démolissait les œuvres d'art à coups de Browning, comme aux époques les plus néfastes des révolutions mexicaines. L'honnête tavernier eût été fort surpris s'il eût pu voir que son ivrogne, sitôt qu'il avait été dans la rue, avait brusquement recouvré son équilibre et son sang-froid et s'était mis à courir à toutes jambes comme s'il eût eu hâte de mettre la plus grande distance possible entre lui et le bar de l'Alliance. Le triste individu, dans lequel on a sans doute reconnu Toby Gragan, courut d'une haleine jusqu'à la gare qui était située à une certaine distance de la ville. Il y fut bientôt rejoint par petit Ed, qui avait joué avec tant d'à-propos le rôle de donneur de bons conseils. Les deux coquins s'égayèrent sans vergogne aux dépens de l'infortuné Clapton.
Il est capable d'avoir un coup de sang quand il constatera que le billet ne vaut rien, déclara petit Ed avec cynisme.
J'ai reçu un coup de pied quelque part, grommela Toby,
mais je ne le regrette pas. J'en recevrai encore un deuxième et même un troisième au même prix. Nous voilà en fond, c'est l'essentiel, mais je crois qu'il ne serait pas prudent de moisir ici.
Tu as raison, je suis sûr que si j'avais le malheur de retomber entre les grosses pattes de Monsieur Clapton, il me tordrait le cou sans miséricorde.
Dame, mets-toi à sa place. Notre petite combinaison était assez ingénieuse, mais avoue qu'elle n'était pas honnête. »
Après une courte discussion, Dad et Toby jugèrent qu'il serait plus prudent de ne pas prendre le train à la station, mais de s'éloigner pédestrement de la ville en longeant la voie du chemin de fer. Le temps était doux, ils étaient contents de leur journée. Ils envisageaient l'avenir sans inquiétude, et dans cet état d'esprit, une petite promenade au clair de lune n'avait rien pour leur déplaire. Chapitre 3. Les chasseurs d'or. 3 semaines s'étaient écoulées depuis les événements que nous venons de raconter. Toby et petit Ed, campés dans un vallon abrupt des montagnes de la Sierra Madre, non loin des frontières de l'Arizona, étaient occupés à faire cuire leur déjeuner, qui se composait d'un plat de ces délicieux haricots mexicains qu'on appelle des frijoles et d'un morceau de lard fumé. Ils ne ressemblaient plus en rien aux deux vagabonds de grand chemin qui demandaient la bourse ou la vie aux voyageurs. Grâce à l'argent de M. Clapton, ils avaient revêtu l'aspect d'honnêtes prospecteurs. De solides souliers ferrés, de larges pantalons doublés de cuir et d'immenses sombreros les rendaient pareils de tout point à ces nombreux aventuriers qui, munis de connaissances géologiques élémentaires, s'adonnent à la recherche des filons de métaux précieux dans ces régions désolées sans eau et sans arbres que l'on a si bien dénommé « no man's land », les terres qui ne sont pas faites pour l'homme et où il ne peut pas vivre. Dale et Toby s'étaient d'ailleurs pourvus de tout l'attirail indispensable à ces sortes de recherches. Ils avaient emmené 2 mulets, dont l'un était chargé de vivres, farine, conserves, tasajo, viande séchée, sans oublier des bidons de cagne. L'autre portait les outils, le lourd marteau, la pelle, le pic, les fleurets, les leviers de fer, et une petite provision de cartouches de dynamite. Les deux bandits, devenus prospecteurs, étaient d'ailleurs en excellente santé, en dépit de privations de tout genre qu'ils avaient eues à essuyer. Le soleil de l'équateur avait bronzé leur teint, Les longues marches dans la Sierra et le travail en plein air leur avaient élargi les poumons, durci les muscles, jamais ils ne s'étaient aussi bien portés. Enfin, ils avaient été pris au charme de cette fièvre de la recherche que connaissent tous les prospecteurs. Ils avaient connu les joies du mineur qui découvre dans le sable noir du torrent, près des rocs de quartz ferrugineux, les premières paillettes, les premières couleurs qui ne l'amèneront peut-être qu'à une poche insignifiante ne contenant que quelques grammes d'or, mais qui peut-être aussi le conduiront à quelques gisements d'une richesse incalculable, capable de changer en un Vanderbilt ou en un Carnegie le pauvre coureur du désert. Dans ce vallon sauvage bordé de falaises abruptes, couronné de madronos, de lavande et de grands yuccas aux hampes majestueuses chargées de clochettes blanches, il ne poussait que quelques maigres arbrisseaux. Les mulets, faute d'une meilleure nourriture, rongeaient des raquettes épineuses. De temps en temps, ils allaient se désaltérer aux minces filets d'eau qui suintaient du sommet du roc et allaient un peu plus loin se perdre dans les sables noirs, bus par le soleil torride, avant d'avoir pu aller plus loin. Pendant que Toby entretenait avec des brindilles et des plantes desséchées le brasier allumé sous la marmite où cuisaient les frijoles, petit Dad, accroupi au bord du ruisseau qui en hiver devait être un vrai torrent, se livrait au lavage des alluvions. Armé de ce plat de fer que les prospecteurs appellent la pâté et qu'il avait rempli de sable et d'eau, il l'agitait doucement, enlevant avec précaution les cailloux, puis rajoutant de l'eau qui, peu à peu, entraînait la terre et les parties les moins lourdes du sable. Au bout d'un certain temps, il ne restait plus dans la pâté qu'une couche noire d'alluvions dans laquelle brillaient quelques poussières jaunes, qui étaient des particules d'or infiniment petites. « Des couleurs !» s'écria Dad avec enthousiasme. « Il y a certainement un filon à peu de distance d'ici. »« Je donnerai quelque chose pour le voir, » murmura Toby beaucoup plus sceptique. « Tu viens manger ?»«
Non, je vais laver encore une bâtée. Les couleurs deviennent plus nombreuses. Je crois que nous allons trouver quelque chose. »«
Fais ce que tu voudras, moi je mange. Hier, on n'a déjà pas eu le temps de dîner. » Dad finit par se laisser convaincre. Mais tout en dévorant goulûment sa portion, il consultait un petit bouquin crasseux qu'il avait tiré de sa poche et qui s'intitulait « Le manuel guide du parfait prospecteur ». En quelques minutes, Dad et Toby avaient absorbé tout le contenu de la marmite. Ils se remirent au travail avec acharnement.
« Je vais faire ce que dit le livre !» déclara Dad avec exaltation. « Il faut continuer à laver le sable en amont et en aval de l'endroit où nous avons déjà trouvé quelque chose. Sais-tu que depuis hier, nous avons déjà ramassé pour près de $2 d'or ?
C'est peu.
Mais animal, ce n'est qu'une indication. Qui te dit qu'avant la fin de la journée, nous n'allons pas mettre la main sur une pépite grosse comme ma tête ?
Ah, moi, je ne demande pas mieux, murmura Toby, qui, peu à peu, se sentait gagné à son tour par la contagieuse fièvre de l'or. Ils travaillèrent 3 heures avec une hâte furieuse. Ils ne se parlaient pas, échangeant seulement de loin en loin quelques rares paroles. Aux couleurs avaient succédé de véritables paillettes, puis aux paillettes de gros grains de métal. Dans ces 3 heures, ils avaient entassé dans la boîte de fer blanc, où ils déposaient leurs trouvailles, un petit tas de poudre qui pouvait valoir une 50aine de $. Ils étaient ivres de joie. Ce fut bien autre chose quand Dad, en remontant le ruisseau, atteignit un endroit où la roche étincelait de points brillants. Il courut chercher la pioche. Le quartz, désagrégé par les pluies, cédait par gros morceaux qui, tous, paraissaient incrustés d'or, comme si on se fût amusé à enfoncer des clous d'or purs dans le cristal ferrugineux couleur de rouille. Dad et Toby tapaient à qui mieux mieux, comme s'ils eussent voulu éventrer la montagne. Sans plus attendre, Dad voulait faire sauter à la dynamite tout un pan de rocher. Toby eut grand-peine à lui faire comprendre qu'il était plus sage de mettre d'abord en sûreté tout l'or qui se trouvait à portée de leurs mains à la surface. Ce n'était pas la peine d'attirer par le bruit d'une détonation les gambusinos et les rôdeurs de frontières qui pouvaient se trouver dans le voisinage. Comme pour montrer la justesse de cette observation, Toby finissait à peine de parler qu'une explosion se fit entendre dans le lointain. Cette explosion fut suivie d'une seconde, d'une troisième, puis d'une quatrième et d'une infinité d'autres. Les deux prospecteurs se regardèrent effarés. Ils étaient à la fois très inquiets et très mécontents.
« Qu'est-ce que cela veut dire ? » fit Dad. « S'il y a près d'ici un camp de mineurs, nous sommes flambés. »« Ce ne serait pas drôle. Vois-tu que l'endroit où nous avons fait nos découvertes appartient déjà à quelques sociétés? J'ai du flair en te défendant de te servir de la dynamite.
N'entends pas me laisser voler? Nous allons commencer par arracher autant d'or que nous pourrons.
Oui, mais s'ils nous surprennent en plein travail.
Je crois qu'avant tout, il faut savoir à qui nous avons affaire. Allons en reconnaissance, et cela tout de suite.
Et comme les coups de feu continuaient à se faire entendre de loin en loin, et arrivaient très nettement aux oreilles des deux amis, répercutés par les échos de la montagne,
« Tu entends, fit Toby, je parie qu'ils ne sont plus qu'un demi-mille. Le plus curieux, c'est que ce ne sont pas des coups de mine. On dirait qu'on sert d'un fusil de très gros calibre. »
« Ceux qui s'en servent ne sont pas nombreux, »
répondit Dad, qui était un observateur très perspicace.
« Les coups sont espacés, comme s'il n'y avait qu'un seul homme et qu'un seul fusil. »«
Tu as raison. Je me demande ce que cela peut bien signifier. Si nous allions voir,
allons-y. »
Guidés par le bruit des détonations qui continuaient à crépiter, Dad et Toby franchirent une muraille de rochers et se trouvèrent dans une vallée encore plus désolée et stérile que celle qu'ils venaient de quitter. Des blocs de granit, de quartz et de porphyre formaient des amoncellements chaotiques que n'égayait aucune végétation. Le vallon s'ouvrait sur un vaste espace désertique qui, sans doute, se prolongeait jusqu'à l'océan Pacifique et où poussaient seulement des cierges épineux et de rares cactus. Mais les deux amis ne prêtèrent pas tout d'abord grande attention au paysage. Le spectacle qu'ils aperçurent en atteignant le sommet du défilé, qui commandait la vallée, était assez intéressant pour exciter leur étonnement. Le visage en sueur, un gros homme vêtu de coutils blancs était armé d'un de ces antiques tromblons, fort employés autrefois par les bandits espagnols et qu'on ne voit plus guère aujourd'hui que dans les musées. Le canon évasé en forme d'entonnoir pouvait recevoir toute une poignée de balles et la crosse assez courte permettait de résister plus aisément au formidable recul que produisait une pareille arme. C'étaient les détonations du tromblon que Dad et Toby avaient entendues. Mais le plus singulier, c'est que celui qui en était armé continuait à fusiller consciencieusement la façade du rocher placé en face de lui, rechargeant aussitôt qu'il avait tiré, et si absorbé par cette occupation qu'il ne s'aperçut pas qu'il avait été vu. Il était fort occupé à bourrer son arme avec une poudre brillante qu'il tirait d'un sac de cuir pendu à sa ceinture, lorsque Dad poussa une exclamation de surprise.
« Mais c'est le docteur Klaus Christian » s'exclama-t-il. « Lui, que nous avons si longtemps et si vainement cherché !»
En entendant prononcer son nom, le docteur avait lâché son tromblon et l'avait prestement remplacé par un Browning.
« Haut les mains »
cria-t-il en mettant en joue petit Dad, qui marchait le premier.
« Pas de blague, docteur !» s'écria celui-ci. « Ne tuez pas votre plus dévoué collaborateur. Je suis donc bien changé que vous ne me reconnaissiez pas.
Oh, »« C'est toi ?» fit Klaus Christian, dont la physionomie se dérida un instant. « Et quel est l'homme qui t'accompagne ?»«
C'est encore une vieille connaissance. Ce pauvre Toby à qui il est arrivé une foule de malheurs et qui a fait le voyage tout exprès pour se réconcilier avec vous. »«
C'est bon, » murmura le docteur avec un mauvais regard à l'adresse de Toby.
« Je veux bien lui pardonner encore cette fois, pour être agréable, mais à l'avenir, il faudra qu'il marche droit. Vous n'aurez qu'à vous louer de son dévouement. »«
Mais comment as-tu pu faire pour me retrouver? J'espérais pourtant n'avoir été suivi de personne. » »«
Un simple hasard. Vous savez que nous sommes prospecteurs, nous aussi. Puis j'avais eu de vos nouvelles à la Deutsche Natrona, et je savais aussi par votre correspondant de Mexico que vous étiez en voyage du côté de la région minière. »«
Je suis très heureux de te rencontrer. » « Je vais avoir besoin de toi. Jamais mes opérations n'ont été si prospères. J'avais déjà pris mes mesures pour me retirer au Brésil. Je commence à être trop connu dans ce pays-ci. Je n'y suis pas très bien vu et ce sera encore pire dans quelque temps.
Puis-je savoir pourquoi ?
Sais-tu ce que j'étais en train de faire ?
Non ?
Je suis en train d'exécuter une opération que l'on appelle en termes techniques « saler ou fusiller une mine ». Ce rocher ne contient pas une parcelle de minerai. Alors, c'est bien simple. J'y en mets. Ce tromblon est chargé de belles et bonnes poudres d'or que j'incruste à la surface du rocher. Dans quelque temps d'ici, des ingénieurs officiels viendront, dresseront un rapport favorable sur la quantité et la qualité du minerai, et une société à laquelle je vendrai ce terrain fort cher viendra installer dans ce désert ses batteries de pylons, ses perforatrices et ses cuves de cyanuration.
Mais on reconnaîtra bien vite la vérité. Ça n'a pas d'importance. J'aurais quitté le pays depuis longtemps. La société, d'ailleurs, n'y perdra rien. Elle se gardera bien de dire à ses actionnaires qu'il n'existe ici d'autre poudre d'or que la mienne. Elle revendra les actions à une société anglaise ou française qui, elle-même, les écoulera à de petits rentiers, à des policemen en retraite, à des curés de campagne, enfin, à des gens ignorant le premier mot de la question. Dad eut un moment d'hésitation. Il se demandait s'il devait révéler à Klaus Christian la découverte du gisement bien réel qu'il venait de faire. Le dévouement et l'admiration qu'il avait pour le diabolique docteur l'emportèrent. À la grande stupeur de celui-ci, il le mit au courant de ses récents exploits de prospecteur, sans essayer de rien lui cacher. « Tu as bien fait de parler, » répondit Klaus Christian, « car je suis précisément propriétaire de la mine que tu as trouvée. J'ai acheté tout dernièrement et payé au gouvernement mexicain 3 000 carrés de ce désert. » Et comme Dad et Toby, en entendant cette déclaration, avaient allongé la mine d'une façon significative. « Rassurez-vous, d'ailleurs, » ajouta-t-il, « je n'ai pas l'intention de vous faire du tort. Je suis riche, beaucoup plus riche que vous ne pouvez l'imaginer. Et je gagnerai probablement beaucoup plus de dollars avec mon placer qui n'existe pas que vous avec le vôtre. » Après une discussion assez animée, on finit par décider que le docteur, en qualité de propriétaire, serait associé pour un tiers aux bénéfices, et que dès le lendemain, tous les trois se mettraient au travail et ne quitteraient l'endroit que quand les plus belles pépites seraient en sûreté à la banque de la ville la plus voisine. Cet arrangement fut du goût de tout le monde, et ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il fut fidèlement exécuté de part et d'autre. Le gisement découvert par Dad n'était d'ailleurs qu'une simple poche qui, tout en renfermant quelques beaux échantillons, ne pouvait être regardée comme un véritable placer. Néanmoins, après un dur travail qui se prolongea pendant 3 semaines, chacun des associés se vit à la tête d'une somme de 50 000 $, ce qui pour Toby et pour Dad représentait une véritable fortune. Quand cette affaire fut réglée à la satisfaction de tous, Dad prit le train pour New York, où le docteur l'envoyait en mission confidentielle. Le jeune vagabond n'était plus reconnaissable. Vêtu d'un habit de bonne coupe, le plastron de sa chemise orné de grosses perles, il avait une bague au doigt et brandissait nonchalamment un jonc à pomme d'or. Il avait même fait la folie de s'acheter un monocle. On le prit pour un véritable petit maître. Chapitre 4. Le miroir ovale. Dad avait quitté Mexico enchanté de son voyage à New York. Il était installé dans un compartiment de luxe et il fumait un cigare exquis. Enfin, il se trouvait dans l'excellent état d'esprit de l'homme qui, pour la première fois de sa vie, possède un carnet de chèques et, chose extraordinaire pour Dad, en dépôt dans une banque, de l'argent à peu près honnêtement gagné. Aussi, le jeune bandit, qui était d'un caractère très sociable, liait conversation avec les premiers venus et donnait son avis avec un aplomb superbe sur les questions de mines et de finances, dans lesquelles, d'après ce qu'il avait retenu du docteur Klaus Christian, il se croyait une véritable compétence. Il se montrait aimable et poli avec tout le monde, plein d'obligeance envers les dames, et il ne manquait pas d'arborer son monocle à toutes les stations un peu importantes. Mais à mesure qu'on se rapprochait de New York, ses idées prenaient un autre tour. Son voyage cessait de lui paraître une partie de plaisir. Il ne se dissimulait pas que la mission de confiance dont le docteur l'avait chargé présentait de sérieuses difficultés. Voici en substance ce que lui avait dit Klaus Christian. « D'après mes renseignements, mon ennemi personnel, mon plus redoutable adversaire, le détective milliardaire Todd Marvel, se rend en France avec Miss Elsie, sa fiancée, pour y mener à bien une délicate enquête qui a pour lui la plus grande importance. Cette enquête, il ne faut pas qu'elle réussisse. Il m'importe beaucoup qu'elle n'aboutisse pas. Todd Marvel a déjà réuni des documents intéressants sur cette affaire. Ce sont des documents qu'il faut que tu trouves moyen de te procurer. Ils se trouvent, j'en suis certain, dans le palais de Todd Marvel à New York, un des plus beaux de la 5e avenue. Et pour faciliter encore ta tâche, j'ajouterai que s'ils n'ont pas été déposés dans le coffre-fort du cabinet de travail, ils ne peuvent être que dans les appartements de Miss Elsie. Maintenant, c'est à toi de te débrouiller. Il me faut absolument ces papiers. » Le lendemain de son arrivée à New York, Dad alla faire un tour du côté de la 5e avenue. Mais il n'osa pas trop approcher du palais, car il n'ignorait pas que Todd Marvel et son secrétaire Floridor le connaissaient parfaitement et se seraient empressés de le faire arrêter. Finalement, il pensa que le plus sûr moyen d'arriver à son but était d'adopter un déguisement. Et après mûre réflexion,
il s'habilla en chinois. Le visage jauni par une décoction de safran, les yeux protégés par d'épaisses lunettes noires, les pieds chaussés de bottines à semelles de feutre, il se drapa dans une blouse de soie noire, tout usagée, et s'arma d'un parasol. Ainsi accoutré, il ressemblait trait pour trait à ces étudiants pauvres qui sont très nombreux dans le quartier chinois. Puis il était sûr de ne pas être reconnu. Grâce à ce camouflage, il put se promener pendant toute une matinée en flâneur dans la 5e avenue sans attirer l'attention. Il cherchait vainement une bonne idée lorsque ses regards tombèrent sur un grand camion automobile qui descendait l'avenue chargé de luxueux tapis dont quelques-uns étaient des chefs-d'œuvre des gobelins ou de la savonnerie. Ces tapis étaient enroulés sur eux-mêmes et de plus protégés par une enveloppe de toile qui portait l'adresse de leur destinataire, M. Todd Marvel. Dad avait enfin trouvé l'occasion espérée. La voiture était encore à 300 mètres de la demeure du milliardaire. Le jeune bandit profita d'un encombrement pour se hisser avec son agilité habituelle sur le camion. Puis il se glissa dans l'espèce de tube formé par l'enroulement d'un des plus grands tapis. Là, il attendit tranquillement. 10 minutes plus tard, il sentit que des bras robustes enlevaient le tube d'étoffe dans lequel il était caché et procédaient au déchargement du camion. Puis Dad constata que son tapis et lui se mettaient en marche suivant une ligne verticale. Alors, il y eut un nouvel arrêt. En effet, les tapis avaient été placés sur un monte-charge et hissés jusqu'à une pièce du 3e étage où les réparations qu'ils venaient de subir, chez un spécialiste, devaient être examinées avant qu'ils reprissent leur place dans les salons du milliardaire. Rassuré par le silence et par l'immobilité, Dad, au bout d'un quart d'heure, se décida à sortir de son tube en rampant avec précaution. Il se trouvait dans une vaste resserre où étaient empilés des meubles de toute espèce. Il résolut de passer là le restant de la journée et d'attendre la nuit en étudiant, autant par distraction que par nécessité, le plan détaillé du palais qui lui avait été remis par le docteur. Ce plan lui apprit que l'appartement de Miss Elsie se trouvait juste au-dessous de la pièce où il s'était introduit. Il fit une seconde remarque intéressante. Le palais de Todd Marvel était de style Renaissance. À chaque étage, il y a des balcons superbement sculptés. Il en conclut qu'à la nuit close, rien ne lui serait plus aisé que de descendre à l'aide d'une corde du balcon de la resserre jusqu'à celui de l'appartement de la jeune fille. Pour peu qu'on eût laissé quelques fenêtres entr'ouvertes, il serait au cœur de la place, et il avait eu soin de se munir d'une scie à métaux, d'une pince monseigneur qui se démontait en 3 parties et ne tenait presque pas de place dans ses poches, enfin de quelques autres outils des cambrioleurs de profession. Restait à trouver une corde. Les solides ficelles qui liaient les tapis faisaient précisément l'affaire. Dad choisit la plus forte et eut le loisir de la doubler pour la rendre plus solide et d'y faire des nœuds de place en place pour faciliter la descente. La nuit vint sans que personne se fût avisé de le déranger. Quand il fut 11 heures, que le palais tout entier fut plongé dans le silence et que les lumières eurent disparu à la plupart des fenêtres, Dad se servit de sa corde pour descendre. Mais il eut soin de la tirer à lui afin de ne pas laisser de traces de son passage, sitôt qu'il eut atteint sans accident le balcon d'une des pièces occupées par Miss Elsie. Tout le favorisait. La pièce était obscure et la fenêtre entrebâillée. Il entra et reconnut qu'il se trouvait dans un petit salon, élégamment meublé, dans lequel se trouvait un grand bureau en bois de rose, orné de cuivre ciselé, qui attira tout de suite son attention. Non que Dad fût antiquaire, mais il supposait avec vraisemblance que le document qu'il était chargé de voler pouvait fort bien se trouver là. Il s'avançait déjà vers le meuble, quand tout à coup, les lustres du plafond s'allumèrent, inondant toute la pièce d'une vive clarté. Miss Elsie rentrait. Dad n'eut que le temps de se fourrer précipitamment sous un rideau de soie dans l'embrasure de la fenêtre, retenant son souffle et se faisant aussi petit que possible. La jeune fille ne s'était aperçue de rien, mais Dad tremblait qu'elle n'eût la fâcheuse idée de fermer la fenêtre, car alors elle le découvrirait forcément. Pour le moment du moins, Miss Elsie semblait avoir d'autres préoccupations. Elle avait pris sur un meuble une glace ovale, aux manches d'ivoire curieusement ciselées, et elle se regardait moins par coquetterie que pour vérifier si son visage avait autant maigri que lui avait affirmé le soir même une de ses amies, Gladys Barney.
Elle tournait le dos à Dad. Sans méfiance, celui-ci allongea un peu la tête hors de sa cachette. Mais il avait compté sans le miroir qui montra à Miss Elsie les traits d'un hideux petit chinois à lunettes caché sous ses rideaux. La jeune fille jeta un cri et s'évanouit. Dad comprit que la partie était perdue pour cette fois et qu'il était inutile d'insister. Avec un rare sang-froid, il noua rapidement au balcon du second étage la cordelette qu'il avait prudemment conservée, se laissa glisser dans la rue et prit la fuite à toutes jambes. Un des détectives spécialement chargés de la surveillance du palais se lança à sa poursuite, mais Dad eut vite fait de le distancer et arriva dans une rue déserte. Il se débarrassa de ses lunettes et de son attirail de chinois et rentra tranquillement à son hôtel. Au cri qu'avait poussé Miss Elsie, sa camériste Betty était accourue. Elle imbiba les tempes de la jeune fille de vinaigre aromatique, lui fit respirer des sels et parvint aisément à la faire revenir à elle. Betty était habituée à ces alertes. D'un tempérament très émotif, un peu cardiaque même, Miss Elsie était fréquemment sujette à ces syncopes et les médecins avaient recommandé de lui éviter toute émotion violente. Lorsque la jeune fille ouvrit les yeux et qu'elle vit la dévouée Betty penchée vers elle, son visage se rasséréna immédiatement.
« Si tu savais comme j'ai eu peur » murmura-t-elle d'une voix faible. « Est-il parti au moins ?»«
Qui cela ? N'a vu personne ?»«
Un horrible petit chinois. Il était là, il y a un instant, dissimulé dans l'embrasure de la fenêtre, et s'apprêtant peut-être à me poignarder, pourvu qu'il ne soit pas resté dans quelque coin. »
Betty se demandait avec inquiétude si sa maîtresse ne déraisonnait pas.
« Il serait bien surprenant qu'un malfaiteur ait réussi à se glisser dans le palais, » répondit-elle.
« Cependant, je vais m'en rendre compte. » Bien persuadée qu'elle n'allait rien découvrir, elle fureta par toute la pièce, soulevant les rideaux et se penchant pour regarder sous les meubles.
« La fenêtre est restée grande ouverte !» s'écria Miss Elsie avec impatience. « C'est par là qu'il a dû s'enfuir !»
Betty s'avança sur le balcon et tout de suite découvrit la corde que, dans sa précipitation, Dad avait laissé attachée à la balustrade de pierre.
« Miss avait raison, » dit-elle un peu effrayée. « La corde grâce à laquelle le malfaiteur a pu se laisser glisser à terre est encore là. Il faut que M. Tom Marvel soit mis au courant. »
Le milliardaire, plus alarmé qu'il ne voulait laisser paraître, se livra à une rapide enquête. Les traces de la corde, qui avait laissé sa marque sur le balcon de l'étage supérieur, le rouleau de tapis privé de son emballage, eurent vite fait de lui révéler la vérité. Le rapport du détective qui avait inutilement poursuivi le jeune bandit le confirma dans ses appréhensions.
« C'est probablement Dad, » réfléchit-il. « Dad que je croyais parti pour le Mexique. Il ne peut être envoyé que par Klaus Christian et ce n'est certainement pas sans un motif grave qu'il a trouvé moyen de pénétrer chez moi. Il faudrait décidément qu'avant mon voyage pour l'Europe, je me débarrasse une fois pour toutes de cette encombrante petite fripouille. »
Et sans attendre au lendemain, Todd Marvel se hâta de téléphoner à l'inspecteur Herbert, un des plus habiles policiers de New York, avec lequel il était resté en relation depuis l'arrestation de Klaus Christian dans la maison de Madame Pletsch.